un podcast RFI.
Imaginez-vous, le jour où ils ont construit le mur en 2003, deux semaines avant Noël, les enfants sont partis à l'école tôt le matin. Ils devaient partir vers 7h, 7h30. Et quand ils sont revenus, ils étaient enfermés. Mon plus jeune fils a eu l'impression d'être enterré vivant.
Ce sont deux maisons situées à l'entrée de Bethléem sur la route de Jérusalem. Un axe autrefois commercial, passant. Aujourd'hui, ces deux maisons construites côte à côte sont quasiment encerclées par le mur de séparation construit par Israël. Le tracé du mur n'a laissé qu'une petite route d'accès. L'une de ces maisons appartient à la famille de Claire Anastas. Depuis ce jour de décembre 2003, la seule vue qu'elle a, c'est le mur, ses blocs de béton de 8 mètres de haut, ses fils barbelés, ses miradors. Une présence oppressante, le mur est à une distance allant de 3 ou 4 mètres à une vingtaine de mètres. Des miradors, les soldats israéliens peuvent regarder dans la plupart des pièces.
On pleurait tous à chaudes larmes. Mon fils m'a dit, « Maman, après tout ce qu'on a subi, nous sommes restés. Nous avons tout nous bon dans la maison. Et maintenant, on arrive à nous enterrer vivants. » C'était ses mots.
Les travaux de construction du mur de séparation ont commencé en juin 2002. C'était une façon d'endiguer les attentats suicides sur son territoire. La seconde intifada, une révolte palestinienne contre l'occupation israélienne, avait commencé 2 ans plus tôt. Mouvement de protestation, jet de pierre de la part de manifestants en colère, répression. Petit à petit, la révolte a tourné à la confrontation. Opérations militaires israéliennes en plein cœur des zones les plus densément peuplées. Attaques palestiniennes contre militaires et civils. Attentats suicides. Du point de vue de ses concepteurs, le mur devait empêcher les intrusions des combattants palestiniens sur le territoire israélien. Pour Israël, il s'agit d'une barrière de sécurité, longue de plus de 700 km et qui empiète largement sur le territoire palestinien. Pour les Palestiniens, c'est un mur de l'apartheid qui les empêche de sortir de Cisjordanie sans autorisation et fait des villes palestiniennes des Bantoustans, du nom de ces territoires qui étaient attribués à des populations noires durant les années de ségrégation raciale en Afrique du Sud. En 2004, la Cour internationale de justice considère que la construction du mur entrave gravement l'exercice du droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Je suis Guilhem Delteil, grand reporter à RFI. Vous écoutez Palestinien, épisode 2, carte d'identité cisjordanien. Claire Anastas tente, dans sa maison de famille désormais entourée par le mur, de faire vivre une activité de chambre d'hôte et de magasin de souvenirs. Elle est l'une des premières personnes que j'ai rencontrées dans les territoires palestiniens. J'avais séjourné chez elle lors de ma première visite en 2011. L'histoire de sa famille m'avait touché et pour cette série, je décide de revenir séjourner chez elle. Claire Anastas a grandi dans la vieille ville de Bethléem. C'est après son mariage qu'elle a emménagé dans cette maison. Une belle bâtisse en pierre blanche traditionnelle, taillée à la main, fruit du travail de sa belle famille. Et les premières années de sa vie maritale étaient plutôt calmes et heureuses. Ce fut le cas jusqu'au début de la seconde intifada, 12 ans plus tard.
Durant la seconde intifada, ils ont construit une base militaire juste derrière chez nous. Et comme notre maison fait 3 étages, elle protégeait la base militaire. On recevait des projectiles palestiniens destinés à l'armée israélienne de tous les côtés, que ce soit de camps de réfugiés d'Aïda ou de la ville de Bethléem. Durant la seconde intifada, ils tiraient et utilisaient des armes, et l'armée répondait. Donc, les deux camps utilisaient des armes et on était coincés au milieu. L'armée israélienne a utilisé mon appartement et le toit, car c'est un bon endroit pour tirer sur la ville de Bethléem, et l'ont utilisé pendant plusieurs années. On devait leur ouvrir les portes à minuit alors qu'on avait des enfants de 2 à 2 ans. C'était une vie terrible, une période très très dure. Et cela s'est terminé malheureusement par la construction de murs sur 3 côtés de notre maison. À vrai dire, elle voulait même faire le 4e côté. Elle voulait bloquer l'entrée de la maison. Mais ils ont renoncé pour laisser, comme vous l'avez vu, cette petite route d'accès. Je leur ai dit, s'il vous plaît, mettez un couvercle au-dessus de la maison et enterrez-nous vivants. Mais nous avons prié et placé notre confiance en Dieu. Et grâce à Dieu, nous avons été sauvés par la force du Saint-Esprit.
La famille Anastas n'a pas voulu partir. Elle s'est tournée vers l'église et vers ses contacts à l'étranger pour essayer de faire vivre tant bien que mal sa maison d'hôte. La Cisjordanie est un territoire occupé par Israël depuis juin 1967. Au terme de la guerre des 6 jours, l'armée jordanienne a été repoussée par les forces israéliennes. De 1967 à 1994, Israël avait le plein contrôle de ce territoire. Depuis, les accords d'Oslo, signés en 1993 entre les Israéliens et les Palestiniens, ont divisé le territoire en 3 zones. La zone A, ce sont les villes palestiniennes comme Ramallah, Bethléem, Jéricho ou Naplouse, où vit la majorité de la population. L'autorité palestinienne est en charge de l'administration civile et de la sécurité. La zone B, il s'agit de villages palestiniens. Là, l'autorité palestinienne n'est en charge que de l'administration civile, les permis de construire, l'enregistrement des naissances et des décès, mais la sécurité, elle, est du ressort de l'armée israélienne. Et enfin la zone C, qui couvre les zones rurales essentiellement désertiques. Elle représente près de 2/3 de la Cisjordanie. Israël y a conservé un contrôle total, c'est là que les colonies israéliennes sont construites. Une ville palestinienne fait toutefois exception. Il s'agit d'Hébron, la plus grande ville de Cisjordanie. Après Jérusalem, il s'agit probablement de la ville la plus disputée entre Israéliens et Palestiniens. Elle a fait l'objet d'un accord distinct et la ville a été divisée en 2 zones. H1, la plus grande partie, la plus moderne, sous contrôle de l'autorité palestinienne. H2, la vieille ville, sous contrôle israélien.
On va aller un peu vers la rue des Martyrs et en tout cas...
Hébron est une ville assez emblématique, car en Cisjordanie, c'est la seule qui compte des colonies israéliennes en son sein. Nous allons la découvrir avec Anouar Abou Aïché. Ce franco-palestinien a longtemps vécu en exil avant de pouvoir revenir dans sa ville natale après les accords d'Oslo. Juriste, il a été ministre de l'autorité palestinienne sous Yasser Arafat, élu municipal de la ville, et il a créé l'association d'échanges culturels Hébron France. Anouar Abou Aïché est une personnalité connue à Hébron. À plus de 70 ans, quand il se promène dans la vieille ville, commerçants, passants et enfants viennent le saluer. Nous le retrouvons dans les ruelles étroites de la vieille ville, où le soleil n'arrive pas à pénétrer au milieu de bâtisses anciennes.
Alors, ici, on est H2. H2, ça veut dire tout le pouvoir, absolument tout le pouvoir, sont aux mains de l'armée israélienne. Construire, entrer, sortir. Le seul pouvoir que nous avons, c'est de nettoyer, de fournir l'eau à l'armée, aux colons, et de fournir l'électricité. Des contradictions que vous ne comprendrez jamais. Mais ça, c'est l'accord qui a eu lieu en 1997. Mes aînés voulaient tout faire pour qu'il n'y ait pas une autre municipalité. Donc ici, c'est nous qui nettoyons, c'est nous qui fournissons l'eau et qui entretenons les routes. Mais nous ne pouvons rien faire sans l'accord des Israéliens. Même les agents de nettoyage ou les agents d'entretien, il faut donner leur nom à l'armée israélienne avant d'arriver. Et ils peuvent dire non ou oui. On va passer. Vous passez et je passe après. Allez.
Au bout de la rue, nous arrivons sur un poste de contrôle de l'armée israélienne. Pour poursuivre notre chemin, il faut passer un tourniquet, puis sous des détecteurs de métaux.
Original, n'est-ce pas ? Maintenant, il a ouvert. Trump.
Un soldat ouvre une grille métallique. Il nous interroge sur notre matériel, vérifie nos identités et nos autorisations de travail. Puis, il nous laisse passer.
Le soldat nous a souhaité la bienvenue en Israël. Nous nous trouvons au cœur d'Hébron, la plus grande ville palestinienne, pourtant en Cisjordanie.
De l'autre côté du poste de contrôle, nous arrivons au pied du lieu le plus important sur le plan religieux. Un imposant bâtiment de forme rectangulaire, aux murs, aux allures de forteresse. Sur la gauche, un minaret. Mais sur la façade, une vingtaine de drapeaux israéliens. C'est le caveau des patriarches qui héberge les tombes, les cénotaphes de plusieurs personnages bibliques. Pour les musulmans, il s'agit de la mosquée d'Abraham.
Et tu vois la mosquée d'Abraham. Donc il y a la moitié à droite, presque la moitié, quoi, qui est permis uniquement aux juifs et à gauche uniquement aux musulmans.
Donc c'est un bâtiment historique dans lequel se trouve les tombes d'un certain nombre de personnages bibliques.
Il y a des cénotaphes de beaucoup de prophètes. Bon, je m'en souviens d'Abraham, Jacob, Joseph, qui a des cénotaphes partout, et leurs femmes, Sarah, Rebecca, Isaac aussi.
Lieu vénéré des deux religions, le caveau des patriarches ou la mosquée d'Abraham est aussi un lieu de tension. Le 25 février 1994, Baruch Goldstein, un Israélien vivant dans l'une des colonies voisines, entre dans la mosquée en uniforme militaire et ouvre le feu sur des Palestiniens en train de prier. 29 sont tués, 125 autres blessés. Baruch Goldstein est maîtrisé et lynché par les rescapés. Les rues autour de ce bâtiment sont quasiment vides. Nous nous approchons des colonies israéliennes situées en plein cœur d'Hébron. L'accès à ces rues est restreint.
Et voilà, donc c'est une zone qui est pratiquement interdite aux Palestiniens. Ici, il y a la rue de Martyrs, que vous allez voir. C'est interdit à tous les Palestiniens. Par contre, vous pouvez passer, les colons aussi. Même le maire d'Hébron, même les membres du conseil municipal d'Hébron, qui entretiennent cette zone, n'ont pas le droit d'y entrer. Et donc, à partir de ce barrage, là où il y a ce soldat, c'est interdit de passer pour les Palestiniens. C'est ici. On a juste le droit de passer pour aller à gauche. Et ici, il faut éviter. Pardon, English.
Un soldat israélien vient à notre rencontre. Nous demande d'où nous venons. C'est la deuxième fois en moins de 500 mètres. Nous devons montrer nos autorisations de travail. Après vérification, nous sommes autorisés à poursuivre. Mais étant accompagné d'un Palestinien, interdiction d'aller tout droit en direction des colonies. Nous tournons à gauche. Petit à petit, la vieille ville a perdu une grande partie de ses habitants. Ils étaient 35 000 en 1967, lorsque l'armée israélienne a conquis la ville, mais plus qu'un millier en 1993, à la signature des accords d'Oslo.
Nous sommes dans une des ruelles de la vieille ville d'Hébron. C'était le cœur du marché d'Hébron auparavant.
Aujourd'hui, la plupart des échoppes sont fermées. On voit ces portes métalliques closes. Et ce qui est assez marquant, c'est que les étages supérieurs, au-dessus de ces échoppes, eh bien, ils sont habités par des colons israéliens. Et les relations sont très tendues avec les Palestiniens qui passent en dessous. Il arrive que les colons israéliens, par exemple, jettent des choses sur les passants palestiniens en dessous. Et donc, du coup, il y a un filet qui passe au-dessus de cette ruelle pour protéger finalement les Palestiniens des déchets qui peuvent leur être jetés dessus. Alors on voit déjà sur ce filet quelques pierres, quelques bris de verre qui sont des traces de ce qui peut tomber sur la tête des passants ici dans cette rue. Historiquement, une communauté juive était installée à Hébron, vivant aux côtés des musulmans. La voisine de la grand-mère d'Anouar Abouaïché était juive. Mais en 1929, la communauté est victime d'un pogrom perpétré par des musulmans dans un contexte de tensions interreligieuses liées au lieu saint de Jérusalem. Près de 70 juifs sont tués, une cinquantaine d'autres blessés. Des maisons et synagogues pillées. Les Britanniques, puissance occupante de l'époque, évacuent alors les 435 juifs qui ont survécu. C'est au nom de cette présence historique dans la ville que les colons justifient leur présence actuelle.
Il y a le rabbin Levinger, Moshe Levinger, qui est venu pour s'installer à Hébron.
Moshe Levinger a été l'un des fondateurs du mouvement de colonisation israélien. Dès la guerre des Six Jours, en 1967, il plaide pour le retour de juifs dans ce territoire. En 1968, il décide de venir passer la Pâque juive à Hébron pour prier au tombeau des patriarches. Il devait rester une semaine, le temps des célébrations, mais il n'en repartira pas. Des négociations commencent avec l'armée israélienne.
Le maire d'Hébron, à l'époque, il s'appelait Cheikh Mohammed El-Jabari. Et donc, il a proposé au gouvernement militaire, au lieu qu'il s'installe à l'intérieur de la ville, parce qu'il voulait venir s'installer ici. Ici, ça, c'est le quartier juif. Hein. Il leur a proposé un terrain qui lui appartient, sa propriété. Il leur a dit, au lieu d'aller dans la vieille ville, qu'ils construisent des maisons sur mon terrain que je vous donne. Et c'est le terrain, et c'est là où ça a commencé, la colonie de Kiryat Arba. Et bien depuis, ils n'ont pas arrêté, à la fois pour grandir Kiryat Arba et encore plusieurs colonies. Et à partir de 1980, donc 13 années plus tard, ils ont commencé à s'installer à l'intérieur de la ville.
Petit à petit, la colonisation s'est étendue, à Hébron comme dans le reste des territoires palestiniens. Face à l'occupation israélienne, la lutte nationale palestinienne s'est intensifiée. Pour évoquer ce combat, je pars à Ramallah, à quelques pas de la Moukata, le palais présidentiel palestinien. J'ai rendez-vous avec Mustapha Barghouti. Ce médecin a fondé la Société palestinienne de secours médical, une organisation non gouvernementale d'aide aux populations civiles. Il est également un responsable politique. Engagé dans des partis de gauche, il est aujourd'hui le secrétaire général d'une formation nommée l'Initiative nationale palestinienne. Il a été candidat à la présidentielle de 2005 et ministre dans un gouvernement d'union nationale en 2006. Opposant aux principaux partis, il porte un regard critique sur la politique palestinienne.
Marhaba, Dr Barghouti.
Hi.
Bonjour.
Je voudrais commencer avec un petit mot sur votre parcours à vous. À quel moment avez-vous commencé une activité politique ?
Je pense que ma vie politique a commencé le 5 juin 1967, lorsque nous avons été occupés. J'étais alors enfant et j'étais volontaire chez les scouts. Et puis ils ont lancé un appel pour avoir des secouristes. Je me suis porté volontaire, ils nous ont formés, et j'ai commencé à prodiguer des premiers soins pendant la guerre. Et bien que j'étais très jeune, je pense que ce jour-là a façonné mon avenir. Parce que nous avons soudain réalisé que nous étions occupés et que tout avait changé dans notre vie. Même si j'étais encore un enfant, j'ai ressenti une grande responsabilité ce jour-là. Et puis, bien sûr, j'ai participé activement au mouvement étudiant et ainsi de suite.
Être actif politiquement dans ces années-là, c'était quoi ? Ça avait quelles conséquences à partir du moment où vous étiez sous occupation israélienne ?
Bien sûr, ça a toujours été associé à des risques. Nous avons mené des activités politiques. Nous écrivions des pamphlets, des tracts, nous les avons distribués. Mais j'ai toujours été un fervent défenseur de la résistance populaire non violente, plus que toute autre chose.
Vous parliez de réunions publiques que vous organisiez, de pamphlets que vous publiez, tout ça c'était fait clandestinement.
Oui, ce n'était pas légal. Bien sûr, il y a une période très difficile où le gouvernement israélien n'autorisait même pas la liberté d'expression, de quelque manière que ce soit. C'est pourquoi les gens avaient tendance à faire des pamphlets et des tracts. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de faire ça, car vous pouvez diffuser n'importe quel message par le biais des réseaux sociaux.
Les partis politiques palestiniens étaient interdits dans les territoires occupés, considérés comme des organisations terroristes par Israël. La lutte nationale palestinienne passait par des mobilisations politiques, mais aussi par l'action armée. Des opérations ont été lancées depuis les pays voisins, Jordanie, Liban et Syrie. Plusieurs attentats ont visé des Israéliens à l'étranger, comme la délégation du pays aux Jeux Olympiques de Munich en 1972. 11 athlètes israéliens y ont alors été tués par un commando palestinien.
Les actions militaires provenaient principalement de l'extérieur des territoires occupés. Mais la majorité de la lutte palestinienne à l'intérieur des territoires occupés était une lutte populaire de masse. Dans une large mesure, elle était principalement non-violente. Il y avait des activités populaires de masse, des vagues et des vagues de manifestations, des vagues et des vagues de protestations. Jusqu'en 1987, date à laquelle tout ce travail préparatoire a explosé avec la première intifada, qui était principalement non-violente.
Encore des accrochages hier en Cisjordanie et sur la bande de Gaza entre soldats israéliens et palestiniens. On signale une trentaine de blessés.
Le 8 décembre 1987, un camion israélien percute une voiture palestinienne à l'entrée de la bande de Gaza. L'accident fait 3 morts. Beaucoup de Palestiniens y voient un crime haineux, une possible vengeance après l'assassinat d'un Israélien 2 jours plus tôt. Ce n'est pas le principal accrochage entre Israéliens et Palestiniens, mais 20 ans après le début de l'occupation, il suffit à déclencher un vaste mouvement de protestation dans l'ensemble des territoires occupés. Sans coordination, des jeunes, des femmes, des civils de tous âges ramassent des pierres et les lancent sur les soldats israéliens. C'est le début de la première intifada, la première révolte contre l'occupation israélienne. Ce soulèvement s'inscrit dans la durée et conduit au lancement d'un processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. Les premières négociations ont lieu à Madrid, en Espagne, en 1991. Mustapha Barghouti faisait partie des négociateurs palestiniens. Je lui ai demandé quel avait été alors l'objet des négociations.
La fin de l'occupation, l'arrêt des activités de colonisation et la création d'un État palestinien indépendant. Et Israël n'a pas voulu s'engager. Aucun dirigeant israélien n'avait encore accepté la création d'un État palestinien indépendant. Tout ce dont il parlait, c'était une structure autonome sous contrôle israélien. Et ils n'ont pas bougé d'un pouce sur la question des colonies. Les négociations entamées à Madrid se sont donc déplacées à Washington. Et pendant près d'un an et demi, les négociations ont porté sur un seul point, à savoir l'arrêt ou non des activités de colonisation. Et Israël n'a pas accepté d'arrêter les activités de colonisation.
L'année suivante, Israël change de gouvernement. Un autre processus de négociation est alors engagé, dans le plus grand secret, en Norvège cette fois-ci. Il conduit au premier accord entre Israéliens et Palestiniens, signé le 13 septembre 1993 dans les jardins de la Maison-Blanche, sous le parrainage du président américain de l'époque, Bill Clinton. Le dirigeant palestinien Yasser Arafat et le premier ministre israélien Yitzhak Rabin se serrent la main devant les caméras du monde entier.
Aujourd'hui, d'une voix claire et forte, nous vous disons: assez de sang, assez de larmes, assez. Nous ne voulons pas de revanche. Nous ne nourrissons aucune haine à votre égard. Aujourd'hui, Il faut donner une chance à la paix.
Giving peace a chance.
Et maintenant, au seuil de cette nouvelle ère, je voudrais m'adresser au peuple d'Israël. La décision à laquelle nous sommes parvenus ensemble était difficile. Du courage et de la détermination, il en faudra encore beaucoup pour continuer à construire la coexistence et la paix entre nos peuples. Mais c'est possible, nous arriverons à planter les fondations d'une paix juste et durable.
Ces accords dits d'Oslo sont censés ouvrir une phase de transition. 5 ans, au cours desquels les points laissés en suspens doivent encore être négociés et au bout desquels un État palestinien est censé voir le jour. En attendant, les Palestiniens sont autorisés par Israël à créer une autorité chargée d'administrer les territoires confiés à la direction palestinienne. Les premières zones d'où se retire l'armée israélienne sont Gaza et Jéricho. Yasser Arafat, qui incarnait la lutte armée palestinienne et qui était à ce titre-là l'ennemi public numéro 1 d'Israël, fait son retour dans les territoires palestiniens le 1er juillet 1994. Et c'est à Jéricho que lui et 12 ministres prêtent serment le 5 juillet.
Yasser Arafat n'est pas parvenu à cacher son émotion pour ses retrouvailles historiques avec la terre palestinienne.
Yasser Arafat est accueilli en héros par des foules en liesse. L'heure est à l'espoir pour beaucoup de Palestiniens. Un optimisme que ne partageait pas Mustapha Barghouti, convaincu qu'Oslo ne portait pas les germes d'un État palestinien, car Israël ne s'engageait pas à mettre un terme à la colonisation. Rapidement, le processus de paix s'enraye. Et le 4 novembre 1995, Yitzhak Rabin est assassiné par un Israélien d'extrême droite opposé aux accords d'Oslo. En 1996, Benjamin Netanyahou devient Premier ministre pour la première fois. Lui aussi a martelé son opposition à ces accords avec les Palestiniens. Les États-Unis tentent de relancer des négociations lorsque la gauche israélienne revient au pouvoir en 1999, mais sans succès. Et le 28 septembre 2000, la visite d'Ariel Sharon, chef de file de la droite israélienne, sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, considérée par les Juifs comme le mont du Temple, met le feu aux poudres. C'est le début de la deuxième intifada. Mustapha Barghouti.
La deuxième intifada a eu lieu pour deux raisons. Tout d'abord, les dirigeants palestiniens, y compris Arafat, ont réalisé qu'ils étaient tombés dans un piège et qu'Israël ne faisait que gagner du temps. Qu'il n'y avait aucune perspective de libération, de liberté et d'un véritable État palestinien. L'autre raison, elle vient du peuple lui-même. Car je ne pense pas que la seconde intifada ait commencé à la suite de la décision d'un nouveau leader. Elle a éclaté comme la première. Tous ses rêves et ses illusions ont soudain commencé à disparaître. Il est devenu évident que rien de tout cela ne se produisait. 7 ans après Oslo, les colonies continuaient de s'étendre. Les colons continuaient d'attaquer les Palestiniens. L'armée s'est montrée très brutale avec les Palestiniens et l'occupation s'est poursuivie. Et l'autorité palestinienne n'était rien d'autre qu'une structure toujours contrôlée par l'occupation israélienne. La perte d'espoir, plus d'autres facteurs bien sûr, ont provoqué une réaction. Et Sharon avait l'allumette qui a conduit à l'explosion de l'intifada.
La paix maintenant est une organisation israélienne qui observe les constructions des colonies. Elle avait recensé 116 000 colons israéliens en Cisjordanie en 1993, lorsque les accords d'Oslo ont été signés. 7 ans plus tard, au début de la seconde intifada, leur nombre avait augmenté de 80% et avoisiné les 200 000. Nous reviendrons à Ramallah tout à l'heure. Mais pour comprendre ce qu'a été la deuxième intifada pour les Palestiniens, nous partons à Naplouse. Cette grande ville du nord de la Cisjordanie était, jusqu'au début des années 2000, un poumon économique. Mais la mobilisation de ses habitants durant cette révolte a eu un impact lourd sur la ville. La vieille ville de Naplouse est un enchevêtrement de ruelles, certaines couvertes. Lovée au fond de la vallée, elle héberge le principal marché de la ville. Aliments, vêtements ou animaux vivants peuvent y être achetés. En journée, habitants, passants et clients s'y mêlent, s'y croisent, s'y retrouvent. Les odeurs alternent entre celles de la viande crue des bouchers, des savons à l'huile d'olive qui sont l'une des spécialités de la ville, des épices, du café et de la knafé, une pâtisserie présente dans tout le Proche-Orient, mais qui fait la fierté de Naplouse.
Voilà, ils sont en train d'en faire un nouveau. Il est en train de mettre le fromage sur le dessus et il va retourner le tout. Voilà, il est retourné. Il est en train de griller la pâte, et il ajoute le sirop, et le fromage se trouve en dessous. Et maintenant, il l'apporte en salle pour être servi.
Saïd Abou Hijleh est professeur de géographie politique à l'université locale, à Najaf. Cet homme de grande allure et à la voix qui porte dans les ruelles de la vieille ville est un véritable enfant du cru. Il est né ici, a grandi dans cette ville. Aujourd'hui, il y enseigne et il s'est même présenté aux élections municipales. Naplouse, j'y suis venu de nombreuses fois. En reportage, car c'est l'une des plus grandes villes palestiniennes, mais à titre personnel aussi, car sa vieille ville et sa diversité religieuse, la ville compte une communauté samaritaine, une branche éloignée du judaïsme, en font une destination touristique intéressante. Et même après tous ces passages à Naplouse, Saïd Abou Hijleh reste un guide très précieux pour plonger dans l'histoire de la ville.
C'est une ville très importante. Mais Naplouse a aussi une culture de résistance à tous les envahisseurs coloniaux. C'est pourquoi elle est fièrement surnommée la montagne de feu.
Durant la seconde intifada, Naplouse a démontré qu'elle était toujours la montagne de feu. La ville a été très active dans la contestation de l'occupation, de manière pacifique ou armée.
Les personnes sous occupation, en vertu du droit international, ont le droit de résister aux occupants. La résistance revêt de nombreuses formes. Il y a la résistance culturelle, il y a la résistance pacifique, il y a les sit-ins, les grèves. Et oui, certaines personnes ont pris des armes et ont résisté militairement à l'envahisseur, à l'armée d'occupation. Il y a toutes les formes de résistance et elle est devenue très violente. Mais c'est nous qui subissions le plus cette violence. Nous avons perdu des milliers de personnes. Oui, les Israéliens ont perdu des gens. Ce conflit violent doit se terminer dans de bonnes conditions. La paix et la justice. Mais la solution n'est pas la soumission. La solution au problème de l'oppresseur et de l'opprimé est d'aller vers une situation où il n'y a pas d'oppresseur ni d'opprimé. C'est ce que nous devons réaliser et ce pourquoi nous devons travailler. Mais nous ne pouvons pas maintenir cette situation. L'occupation militaire, le colonialisme de peuplement, l'apartheid ne sont pas durables.
En réponse à la mobilisation palestinienne, l'armée israélienne a réinvesti Naplouse, renforçant sa présence autour, mais aussi dans la ville censée être administrée par l'autorité palestinienne. Ces opérations ont fait de nombreuses victimes parmi la population. Des combattants, mais aussi des civils, des martyrs pour les Palestiniens. La mère de Saïd Abou Hijleh a été l'une d'entre eux. Notre promenade dans la vieille ville nous emmène au cimetière où elle repose.
C'est la tombe de ma mère, Shaden Abdelkader al-Saleh Abou Hijleh. Ici, pour les martyrs, nous ne parlons pas de tombe, mais de jardin. Elle a été assassinée par l'armée israélienne le 11 octobre 2002. Elle a été tuée sous les balles de la perfide occupation israélienne, le 11 octobre 2002. Et voici la poésie d'un de mes amis. Nous l'avons gravée.
سلام عليك زهرة الياسمين سلام عليك أم الكادحين علمتنا أن المرأة عطاء لا يستكين فعهدا لك لن نتراجع أو نلين Peace be upon you, jasmine flower.
Que la paix soit sur toi, fleur de jasmin. Que la paix soit sur toi, mère des pauvres. Tu nous as appris qu'une femme est un don sans fin. Nous te promettons de ne pas reculer ni de succomber.
La ville était sous couvre-feu. Sa mère s'était installée dans leur jardin, sur le pas de la porte, pour prendre l'air en faisant de la broderie. Un véhicule militaire israélien est arrivé. Des soldats en sont sortis et ont tiré sur elle, raconte Saïd Abou Hijleh. Plus de 20 ans plus tard, il ne comprend toujours pas pourquoi les soldats ont ouvert le feu sur une femme dans son jardin. Pour lui, ils ne font pas la différence entre combattants et civils.
Beaucoup de tombes de martyrs sont aux couleurs du drapeau palestinien. Le blanc, le noir, le rouge et le vert. Vous pouvez les voir de loin, vous pouvez les distinguer. Ce sont les tombes des martyrs.
Naplouse a été soumise à un couvre-feu total pendant plusieurs mois. Il a été ensuite quelque peu allégé, mais les restrictions de circulation sont restées très fortes. Saïd Abou Hijleh parle d'un siège de la ville pendant 8 mois.
Le siège était très dur. Il était très difficile de se déplacer entre Naplouse et l'arrière-pays, les villages et les autres villes de Cisjordanie. C'était très difficile. Les gens faisaient la queue pendant des heures au poste de contrôle, humiliés. J'avais des étudiants qui partaient à 5 heures du matin pour assister à un cours à 10 heures. 5 heures du matin. Nous avons eu 10 étudiants, ou presque, qui ont été tués en essayant de contourner les postes de contrôle. L'un d'entre eux s'est noyé un jour de pluie. Il a essayé de contourner le poste de contrôle et il y a eu une crue soudaine. Un de mes étudiants est mort d'un coup de chaleur. Il avait des problèmes médicaux. Ils l'ont retenu pendant des heures. C'était de l'abus.
Les restrictions de circulation ont été petit à petit levées, mais elles réapparaissent fréquemment. L'armée israélienne a installé de grosses barrières métalliques à la sortie de chaque ville et peut fermer les routes facilement. Elle peut aussi mettre en place des postes de contrôle sur les routes ouvertes. Cette série a été tournée dans une période de tension. Toutes les sorties de Naplouse étaient alors filtrées. Il m'a fallu plus de 2 heures pour pouvoir passer le poste de contrôle de l'armée. Durant la seconde intifada, un peu plus de 1000 Israéliens ont été tués, dont une majorité de civils, dans des attentats sur le territoire israélien. Côté palestinien, le bilan est 3 fois plus lourd. Et là aussi, les civils constituent la grande majorité des victimes. Scène emblématique de cette période, les chars israéliens sont rentrés dans Ramallah et ont fait le siège de la Moukata, le palais présidentiel de Yasser Arafat.
Micro à la main, face à une véritable marée humaine massée dans la cour de la Moukata, Yasser Arafat martèle ces mots: par notre sang et par notre âme, nous nous sacrifierons pour la Palestine.
En octobre 2004, Yasser Arafat tombe malade. Il est finalement évacué vers la France, mais il meurt à l'hôpital le mois suivant. Sa dépouille est rapatriée dans les territoires palestiniens. Il a droit à des funérailles de chef d'État. À partir de l'année suivante, la confrontation baisse en intensité. Mais le processus de paix israélo-palestinien n'a jamais repris et la violence refait régulièrement surface. La construction de l'État palestinien n'a pas avancé, la Cisjordanie reste divisée en 3 zones et Israël a accru la colonisation de ce territoire. En Israël, le terme de colonie est rejeté. Les autorités préfèrent parler d'implantation, même si certaines ne sont pas légales, y compris aux yeux du droit israélien. En droit international, toutes ces colonies israéliennes sont illégales. En juillet 2024, la Cour internationale de justice a jugé la présence continue de l'État d'Israël dans le territoire palestinien occupé illicite et a estimé que le pays est dans l'obligation de cesser immédiatement toute nouvelle activité de colonisation et d'évacuer tous les colons du territoire palestinien occupé. On se trouve dans une communauté bédouine à Sat el-Bahar. Sat el-Bahar en arabe, ça veut dire le niveau de la mer, car nous sommes ici au niveau de la mer. Nous sommes en fait sur la route entre Jérusalem et Jéricho qui, elle, se trouve en dessous du niveau de la mer, au niveau de la mer Morte, le point le plus bas au monde. Ici, c'est un paysage de montagne. Très aride, des montagnes avec une roche brune, de la poussière que le vent vient balayer ce soir, très très peu de végétation, quelques arbres uniquement.
Et nous sommes au cœur d'une communauté qui vit de manière très sommaire, dans des infrastructures très précaires, faites de tôles, de quelques planches de bois, pas grand-chose, à vrai dire. Jamil, l'un des habitants, nous accueille. Jamil, combien de personnes vivent ici ?
Ma communauté du niveau de la mer, nous sommes 23 familles. Environ une centaine de personnes. Nous vivons uniquement de l'élevage. Nous avons environ 1000 moutons et chèvres et une trentaine de dromadaires. Nous produisons tout type de produits laitiers, du yaourt, du labné sec, du fromage. Nous produisons tout ça ici et nous l'envoyons sur des marchés. Tous mes revenus viennent de cette activité.
En vertu des accords d'Oslo, Sat el-Bahar, situé en plein désert, se trouve en zone C, cette zone qui est restée sous plein contrôle d'Israël. C'est un plaisir de te revoir, Jamil. On se connaît depuis quelques années. On a fait des randonnées ensemble ici dans le désert de Judée. Comment vas-tu aujourd'hui ?
Yes, we are very good. Yes.
Nous allons bien.
Today, and we are very happy to live.
Nous sommes très heureux de pouvoir vivre sur nos terres jusqu'à aujourd'hui.
Cette satisfaction qu'exprime Jamil vient du fait que les Bédouins de Cisjordanie font face à de nombreuses menaces d'expulsion de la part des autorités israéliennes ou de colons. Un sort que sa tribu, les Jahalin, a déjà connu en 1948. Sa famille vient du Negev, un désert, aujourd'hui un territoire israélien. Elle a été déplacée à la création du pays.
Ma tribu possède la terre à l'est d'Hébron, le sud de la mer Morte jusqu'à Tel Erad, qui est en Israël aujourd'hui. Mes parents et ma tribu ont été transférés en 1948. Quand en 1967, les Israéliens ont occupé ce territoire, plus de la moitié de ma tribu a été transférée en Jordanie. Mes parents et d'autres, environ la moitié de ma tribu, est restée ici, sous occupation israélienne. Nous voudrions revenir sur nos terres dans le Naqab, ce qu'on appelle le Negev en français, mais les Israéliens ne nous permettent même pas de vivre une vie normale en Cisjordanie.
Dès 1967, Israël commence à établir des zones militaires et des colonies civiles en Cisjordanie. Après les accords d'Oslo, les territoires sur lesquels vivent les Bédouins demeurent sous plein contrôle israélien. Chaque infrastructure doit donc être validée par les autorités israéliennes. Et elles-mêmes indiquent avoir refusé plus de 99% des demandes de permis de construire déposées par les Palestiniens entre 2016 et 2020, souvent en invoquant des raisons sécuritaires.
Les colonies ont été construites sur certaines des terres de pâturage des Bédouins. Depuis 1994, ma communauté ici est fixe. Seuls quelques éleveurs se déplacent avec des troupeaux et reviennent ici l'hiver. La situation n'est pas facile car nous n'avons aucun service de personne, ni de l'autorité palestinienne, ni d'Israël, car nous sommes dans une zone classée C, et zone de tir. Et toutes les infrastructures, les routes, les écoles sont construites pour les colonies. Et les Bédouins ont interdiction de construire quoi que ce soit. Écoles, centres de santé, installations d'eau ou toute construction pour nos communautés. À chaque fois, nous recevons des ordres de démolition ou des ordres d'expulsion pour obliger nos communautés à partir d'ici. Si vous voulez parler de ce qui s'est passé après octobre 2023, c'est une histoire différente. Les colons ont tout pris autour de nous. Ils attaquent ceux qui se déplacent, ou que ce soit. Ils ont déplacé de force plus de 2000 Bédouins au nord, confisqués de bétail. Car les colons, avec ce gouvernement israélien, font ce qu'ils veulent. L'armée, la police, tout le système israélien est du côté des colons.
Quand est-ce que les difficultés ont commencé avec les autorités israéliennes ?
Cela a commencé après les accords d'Oslo. Vous savez, à Oslo, personne n'a parlé de Bédouins dans le désert. Et tout le désert est classé zone C. Je ne sais pas si les négociateurs palestiniens ont oublié les Bédouins ou si les Israéliens ne voulaient pas parler de nous. Ils ont classé cet endroit zone C. Mais depuis, les Israéliens nous disent que nous sommes illégaux ici, que depuis les accords d'Oslo, tous les Palestiniens devraient être en zone A ou B. Mais pourquoi devrions-nous aller ailleurs, sur des terres qui appartiennent à d'autres villes, aux villages palestiniens? On devrait faire d'autres accords d'Oslo avec les Bédouins.
Tu as parlé d'ordre de destruction, d'infrastructures détruites. Ça, ça a été le cas dans ta communauté aussi?
Oui, je te donne un exemple pour ma communauté. Depuis 1994, l'administration civile et l'armée sont venus détruire des infrastructures plus de 20 fois. Je me souviens d'une fois, en une journée en 2016, ils ont détruit 10 maisons et un jardin d'enfants. On avait construit un petit jardin d'enfants avec les Nations Unies, car dans ma communauté, nous n'avons ni école ni jardin d'enfants. Et aujourd'hui encore, nous avons de nombreux dossiers devant les juridictions israéliennes. Plus de 30 ordres de démolition, 6 ordres d'évacuation.
Face à la poursuite de la colonisation, le morcellement des territoires, on retrouve partout dans la société palestinienne, en zone A, B ou C, ce même sentiment partagé. Israël ne veut pas vraiment la paix. Mais la population palestinienne a aussi du ressentiment à l'égard de ses dirigeants. Retour à Ramallah, communément appelée capitale administrative palestinienne. Elle héberge les institutions de l'autorité palestinienne, l'administration créée en 1994 qui devait préfigurer le futur État palestinien, et l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, une coalition de formations politiques reconnue comme le seul représentant du peuple palestinien, qu'il se trouve dans les territoires occupés, en Israël ou à l'étranger. C'est elle qui est chargée des négociations. La distinction entre les deux n'est pas évidente à saisir, d'autant moins que Yasser Arafat, dans un premier temps, puis Mahmoud Abbas, ensuite, après le décès du chef historique, ont cumulé les fonctions, président de l'autorité palestinienne et de l'OLP.
Et nous terminons notre périple sur la place Al-Manara, ici à Ramallah. C'est vraiment le cœur commercial de la ville. Il y a tout type de commerce. Des vendeurs de rue qui ont des simples plateaux de fruits et légumes de saison qu'ils vendent, des petites échoppes, mais aussi à quelques encablures de là, des centres commerciaux bien plus modernes. On peut trouver des bijouteries, des magasins d'alimentation, des magasins d'électronique, de vêtements, un peu de tout véritablement ici. Il y a beaucoup de monde qui vient ici tous les jours faire des courses, qui passent. Il y a aussi tous les taxis collectifs qui quittent le cœur de Ramallah vers d'autres endroits de la ville, voire d'autres villes de Cisjordanie. C'est véritablement un point de passage, au point qu'on ne sait plus très bien si ce sont les piétons qui se frayent un chemin à travers les voitures ou les voitures à travers les piétons, car les piétons marchent aussi en plein milieu de la place.
La place Al-Manara, c'est aussi un lieu politique. Car c'est de là que partent beaucoup de manifestations, qu'elles soient tournées contre l'occupation israélienne, mais aussi également désormais contre l'autorité palestinienne. C'est sur cette place donc que les Palestiniens viennent régulièrement exprimer leur colère, mais aussi leurs espoirs, leurs attentes. Inès Abdelrazek est une franco-palestinienne. Son père, réfugié, était membre de l'Organisation de libération de la Palestine. Elle dirige à présent le PIPD, acronyme anglophone d'Institut palestinien pour une diplomatie publique. Je l'avais rencontrée lorsque j'étais en poste à Jérusalem, et je la retrouve aujourd'hui car elle fait partie de cette nouvelle génération mobilisée pour la libération et l'indépendance de la Palestine. Je lui ai demandé quels étaient les rapports aujourd'hui des Palestiniens avec leurs dirigeants.
Ce qui se passe, c'est que l'autorité palestinienne, pour administrer des services à l'intérieur des villes, dépend complètement d'Israël, que ce soit pour importer, exporter des biens, amener l'électricité, l'eau, etc. Mais aussi à signer des accords pour la coordination sécuritaire avec Israël. Et donc, ce qui se passe, c'est que les forces de sécurité palestiniennes coordonnent avec les forces de sécurité israéliennes, non pas pour le bien des Palestiniens ou pour mettre fin à l'occupation, mais pour la gérer, pour gérer quelque part l'occupation plutôt que libérer les Palestiniens. Donc c'est là où vraiment il y a une colère, il y a une rancœur contre le leadership actuel qui est incapable de remettre en question le modèle actuel qui consolide, on va dire, le contrôle israélien injuste envers les Palestiniens.
Lorsque nous nous retrouvons pour cette série, nous sommes en mai 2024, plus de 7 mois après les attaques du Hamas sur le territoire israélien et le début de la riposte israélienne dans la bande de Gaza. Dans l'enclave palestinienne, à ce moment-là, 1 700 000 personnes ont été déplacées, plus de 30 000 tuées. Pour les Palestiniens, c'est un génocide, et l'Afrique du Sud porte cette accusation devant la Cour internationale de justice. Les chancelleries soulignent la nécessité de mettre fin au conflit, réaffirment leur attachement à une solution à 2 États, mais pour les Palestiniens, les paroles ne suffisent plus. Inès Abdelrazek.
Je pense que le problème fondamental, c'est que la solution à 2 États est devenue une expression, un concept complètement dévoyé et vidé de tout sens dans la réalité. Donc aujourd'hui, lorsqu'on voit que, encore une fois, la population palestinienne est de nouveau déplacée en masse, qu'il y a un génocide, que les Palestiniens sont tués en masse, que le système de contrôle qui peut se définir par un système d'apartheid en place a été consolidé, lorsque dans les discours politiques ou dans des déclarations on parle de solution à 2 États, c'est vraiment une manière de finalement ne rien faire, continuer à faire des déclarations politiques vides de sens, alors que ce que demandent les Palestiniens, c'est véritablement des mesures, notamment des sanctions, un embargo sur les armes, encore une fois, mettre Israël face à ses responsabilités pour changer le rapport de force sur le terrain. Donc, il faut vraiment réconcilier le discours politique avec la réalité de terrain. Et donc, que ce soit des déclarations ou des reconnaissances symboliques, pour l'instant, et en tout cas, on l'a vu dans le passé aussi, ça n'a pas changé la situation sur le terrain.
Si l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, qui est censée représenter l'ensemble des Palestiniens, ou l'autorité palestinienne qui administre les territoires palestiniens ici, sont discréditées, comment trouver un interlocuteur pour porter la voix des Palestiniens aujourd'hui dans des négociations, dans des discussions sur la scène internationale ?
Ce que demandent les Palestiniens, c'est le droit de pouvoir choisir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les obstacles qui ont été mis sur le chemin des Palestiniens, que ce soit la fragmentation géographique, le fait que ça fait 16 ans qu'on ne peut pas voir nos amis, nos familles et nos proches à Gaza, le fait que toute la Cisjordanie est morcelée, qu'il y a un mur entre Jérusalem et le reste de la Cisjordanie, tout ça a créé une réalité politique, sociale, des fragmentations qui sont réelles. Et aussi, Israël a mis en place des politiques de répression pour empêcher le soulèvement politique et pour empêcher la confrontation avec l'occupation. Ce que veulent les Palestiniens, c'est de dire permettez-nous de choisir nos dirigeants, permettez-nous de pouvoir choisir notre espace politique. Sauf qu'il y a des agendas internationaux, notamment avec les alliés d'Israël comme les États-Unis ou même les Émirats, qui n'ont finalement pas d'intérêt à ce que nous, on ait une représentation politique légitime et plurielle qui représente toute la société palestinienne. On essaie de nous imposer des dirigeants ou de nous imposer qui est un bon interlocuteur ou pas un bon interlocuteur. Donc on n'en est pas aujourd'hui à une étape de négociation. Aujourd'hui, on ne peut pas penser à l'idée d'un processus de paix comme ça a été fait il y a 30 ans ou des négociations bilatérales puisque, encore une fois, la symétrie de pouvoir et le contrôle est entre les mains d'Israël. Donc aujourd'hui, c'est Israël qui contrôle tout le territoire.
Le mur de séparation, les postes de contrôle de l'armée israélienne, les divisions, la répression de toute forme de mobilisation, qu'elle soit tournée contre Israël ou contre les dirigeants palestiniens, les obstacles sont en physique que politiques. Ils délimitent strictement l'environnement dans lequel les Palestiniens de Cisjordanie vivent. Et ceux qui veulent croire en un avenir meilleur savent qu'ils s'engagent dans un long combat où tout est à réinventer. Dans le prochain épisode, nous franchirons le mur de séparation et nous rendrons à Jérusalem. Carte d'identité, Yerusalemitain.